Testament de Sa Majesté le Roi Louis XVI. Au nom de la très sainte Trinité, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI du nom Roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris par ceux qui étaient mes sujets et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici, en sa présence, mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu, son Père, pour nous, hommes, quelque indignes que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère de l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre, auxquels Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions que les supérieurs ecclésiastiques, unis à la Sainte Église catholique, donnent et donneront conformément à la discipline de l'Église suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger. Et je ne les aime pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement, à les détester et à m'humilier en sa présence, ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite, et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à ces actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique à laquelle je suis toujours restée unie de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt que je pourrai du ministère d'un prêtre catholique pour m'accuser de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie pour ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leur prière aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui, par un faux zèle ou par un zèle malentendu, m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme, mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande mes enfants à ma femme. Je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, de ne leur faire regarder les grandeurs de ce monde-ci, s'ils sont condamnés à les éprouver, que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner leur regard vers la seule gloire solide et durable de l'éternité. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants et de leur tenir lieu de mère s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre par moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu, qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissants de tous les soins et les peines qu'elle se donne pour eux, et en mémoire de moi, je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront les facultés, de songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'étaient attachées, qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient, et qui ont même montré de l'ingratitude, mais je leur pardonne. Souvent, dans les moments de trouble et d'effervescence, on n'est pas maître de soi. Je prie mon fils, s'il en a l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté, si j'étais sensiblement touchée de l'ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, à eux, à leurs parents ou amis, de l'autre, j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montré. Je les prie de recevoir tous mes remerciements. Dans la situation où sont encore les choses, je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement. Mais je recommande spécialement à mon fils de chercher les occasions de pouvoir les reconnaître. Je croirais calomnier cependant les sentiments de la nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils, messieurs de Chamilly, et eut que leur véritable attachement pour moi avait porté à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je leur recommande aussi Cléry, des soins de qui j'ai eu tout lieu de me louer depuis qu'il est avec moi. Comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin, je prie messieurs de la commune de lui remettre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de la commune. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je prie messieurs de Malesherbes, Tronchet, de Sèze, de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Fait double à la tour du Temple, le 25 décembre 1792. Louis. Lettre de Marie-Antoinette à Madame Élisabeth la veille de sa mort. C'est à vous que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre père, comme lui innocent. J'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand on a la conscience sans reproche. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et pour vous, ma bonne et tendre sœur. Vous avez, par votre amitié, tout sacrifié pour être avec nous. Dans quelle position je vous laisse ? J'ai appris par le plaidoyer rendu du procès que ma fille était séparée de vous. Hélas, la pauvre enfant, je n'ose pas lui écrire, car elle ne recevrait pas ma lettre. Je ne sais même pas si celle-ci vous parviendra. Recevez pour vous deux, ici, ma bénédiction. J'espère qu'un jour, quand ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Qu'ils ne pensent tous deux à ce que je n'ai cessé de leur inspirer. Les principes et l'exécution de leurs devoirs soient la première page de leur vie, que leur amitié et leur confiance mutuelle en feront le bonheur. Que ma fille sente, à l'âge qu'elle a, elle doit toujours aider son frère par les conseils et l'expérience qu'elle aura de plus que lui et que son amitié pourront lui inspirer. Qu'ils sentent enfin tous les deux que dans quelque position où ils pourraient se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union. Qu'ils prennent exemple de nous. Combien dans nos malheurs notre amitié nous a donné de consolation et dans le bonheur on jouit doublement quand on le partage avec un ami. Et où en trouver de plus uni que dans sa propre famille ? Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. C'est à vous parler d'une autre chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur. Pensez à l'âge qu'il a et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu'on veut et même qu'il ne comprend pas. J'espère qu'il ne comprendra que mieux le prix de votre tendresse pour tous deux. Il me reste à vous confier mes dernières pensées. J'aurais voulu les écrire dès le commencement du procès, mais outre qu'on ne me laissait pas écrire, la marche en a été si rapide que je n'en aurais réellement pas eu le temps. Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle où j'ai été élevée et que j'ai toujours suivie. N'ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant pas s'il existe encore des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop s'ils y rentraient une fois. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu'il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que je connais et à vous, ma sœur en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu vous causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis. L'idée d'en être séparée et leurs peines sont un de mes plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent du moins que jusqu'à mes derniers moments, j'ai pensé à eux. Adieu à ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que mes pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu, adieu. Je ne vais plus m'occuper de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre de mes actions, on m'amènera peut-être un prêtre. Mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot et que je ne traiterai comme un être absolument étranger. À 4 heures du matin, le jour de son exécution, elle écrit « Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous et mes pauvres enfants. Adieu. Adieu. » Après sa lettre à Madame Élisabeth, elle dut s'étendre sur son lit quand Rosalie entra dans le cachot pour lui apporter une tasse de bouillon. Elle ne put en prendre qu'une cuillerée à café. Comme Beau se présentait, elle lui remit sa lettre inachevée en le priant de la remettre à sa belle-sœur, Élisabeth. Il l'enfouit dans sa poche. Peu après, Marie-Antoinette se leva. Elle perdait beaucoup de sang. Elle voulut changer de linge. Pour enlever sa robe, elle se glissa dans la ruelle entre le mur et le lit de sangle. Elle poussa un cri et rougit en voyant le gendarme se précipiter vers elle pour s'accouder sur le lit pour l'observer plus à loisir. « Au nom de l'honnêteté, monsieur, lui dit-elle d'une voix implorante, permettez que je change de linge sans témoin. » Il répondit brutalement, « J'ai reçu des ordres de surveiller vos moindres mouvements. » Marie-Antoinette leva les yeux sur Rosalie. Cette dernière comprit son regard et se plaça adroitement devant la prisonnière. Grâce à elle, Marie-Antoinette put se changer. On lui avait interdit de porter sa robe de deuil. Elle mit sa robe blanche. Rosalie lui chausse ses souliers, lui mit avec les cheveux un bonnet de linon. À genoux devant son lit, la reine achevait sa prière quand le porte-clés entra, la rivière. « Vous savez qu'on va me faire mourir. Dites à votre mère que je la remercie de ses bons soins. » Elle s'est rompue. Les juges arrivaient avec le greffier. Fabricius pour lui lire à nouveau sa sentence. La reine se leva pour les recevoir et leur parut alors si imposante que tous se découvrirent. Le greffier achevait sa lecture quand un jeune homme de haute taille s'avança vers la reine et lui dit « Donnez vos mains ». Marie-Antoinette eut un geste de révolte et d'horreur. « Est-ce qu'on va me lier les mains ?»« On ne les a pas liées à Louis XVI. » Les juges dirent à Samson « Fais ton devoir ». Le bourreau prit les mains de la reine et les lui lia derrière le dos. Puis, lui ôtant son bonnet, il lui empoigna ses cheveux, les trancha et les mit dans sa poche. Un prêtre assermenté, curé de Saint-Landry, s'approcha de la reine, lui dit quelques mots à mi-voix. La reine les reçut avec indifférence et lui permit de l'accompagner. Vers 11 heures, les grilles de la prison s'ouvrirent. Une charrette attelée d'un cheval blanc attendait la prisonnière. Marie-Antoinette gravit la petite échelle qu'on avait placée près du marchepied. Le bourreau et son aide la firent s'asseoir sur la banquette, le dos tourné au conducteur et au cheval. Debout, le chapeau à tricorne à la main, Samson laissait flotter les cordes qui retenaient la condamnée. Partout où passait la charrette, aux extrémités des rues, des places et des carrefours, on voyait luire des canons. Dans cette femme aux cheveux blancs, coupée tout autour du bonnet, dans cette femme misérablement vêtue, au visage usé par le chagrin, la foule stupéfaite ne reconnaissait pas cette reine encore si charmante et si parée quand on était allé la chercher à Versailles. Jusqu'alors, la multitude était demeurée calme rue Saint-Honoré quand la reine passa près de Saint-Roch, des cris se firent entendre. « À bas la tyrannie ! À bas la tigresse d'Autriche !» La reine ne voyait ni les poings tendus, ni les saluts qu'on lui adressait. Elle n'entendait ni les applaudissements, ni les insultes. Son impassibilité ne la quittait point. Quand un de ses cavaliers qui escortait la charrette s'écria en brandissant son sabre, « La voilà, l'infâme Antoinette ! Elle est, mes amis !» La reine ne sortit de son indifférence qu'en apercevant un enfant soulevé par sa mère qui lui envoyait un baiser. Comme il ressemblait à son fils, elle retint à grand-peine ses larmes. Il était midi quand la charrette s'arrêta devant les Tuileries. Peu d'instants après, un ordre bref partit de la foule, suivi d'un claquement de fouet. La voiture se remit en marche et buta dans un amas de pierres et d'ordures, pencha, faillit tomber sur le côté. Des cris d'effroi, des ricanements, des insultes se mêlaient aux jurons du cocher. La voiture se redressa et se remit à rouler avec une lenteur extrême. Elle s'arrêta avant l'échafaud où dominait la statue colossale de la liberté. Aux injures, aux rires, aux clameurs, avait succédé un silence angoissé. La foule regardait avec une curiosité avide cette reine qu'elle avait condamnée. La tête haute, le cou droit, Marie-Antoinette gravissait d'un pas souple les marches qui allaient la mener à la mort. Elle n'apercevait ni les montants de bois de la guillotine, ni le fer luisant qui allait trancher sa tête, ni le bourreau, ni les apprêts de son supplice. Marie-Antoinette ne voyait pas non plus le prêtre qui se tenait près d'elle et récitait la prière des agonisants. Son visage rayonnait d'une sérénité très douce. Ses yeux pâles contemplaient dans l'espace quelque chose qu'on n'apercevait point et semblait s'élargir comme pour laisser pénétrer en eux les splendeurs du paradis.
Que Marie veuille...